VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Pointe-Noire au Congo. Bonjour à tous. La justice nigériane a épinglé plus de 300 sociétés et individus, dont des responsables militaires, pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à des contrats fictifs, a annoncé la présidence dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette affaire de corruption est liée à Sambo Dasuki, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, qui a servi de juin 2012 jusqu'à son limogeage l'année dernière par l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari. Au Congo-Brazzaville, les populations ont diversement réagi à l'appel du général Marie-Michel Mokoko, qui demande la désobéissance civile dans les quartiers sud de la capitale et à Pointe-Noire, où les forces de sécurité sont déployées dans les rues. Les populations estiment que l'officier congolais a bien raison de contester les résultats. Mais dans le camp du président réélu, Denis Sassou Nguesso, dont la victoire a été fêtée hier au quartier Npila, l'appel à la désobéissance civile n'a pas sa raison d'être. À Brazzaville, Ngoula Nguesso.
Quelques heures seulement après la publication des résultats à l'élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, donné troisième avec 13% de suffrage, appelait à la désobéissance civile. D'après un message publié sur les réseaux sociaux, le peuple devait barrer la voie à ceux qui ont volé sa victoire. Dans les quartiers contestataires où militaires et armements sont déployés, les populations comprennent l'appel du général.
Vraiment, s'il y a un mouvement sérieux de désobéissance civile, j'adhère à ce mouvement.
Oui, moi je le soutiens.
Les gens en ont déjà marre.
Dans le camp du président Sassou Nguesso, la victoire à plus de 60% a été fêtée hier au stade Saint-Denis de Pila. Ses partisans dénoncent l'appel du général Mokoko et invitent les partisans des candidats malheureux à se joindre à eux.
Lorsqu'il parle de désobéissance civique, mais je crois que ça ne marchera pas aussi, parce que le peuple n'est pas dupe.
Nous avons été lynchés et jusqu'alors nous ne sommes plus dans nos maisons respectives. Nous sommes dans des hôtels en ce moment.
Lorsqu'on fait la désobéissance civique, nous abîmons ce qu'on a construit.
En entendant la publication des résultats par le camp des opposants, Brazzaville et Pointe-Noire sont toujours sous le qui-vive. Nguela Nguesso, Brazzaville, VOA Afrique.
La détention de quatre leaders de la société civile tchadienne opposés à un cinquième mandat du président Idriss Déby Itno continue de faire des vagues. L'Union des syndicats du Tchad, qui avait appelé à une grève générale ce vendredi, exige la libération des prévenus. Hier, une quinzaine de Tchadiens ont occupé sans violence leur ambassade à Paris pour dénoncer leur arrestation. Pour leur part, les leaders de 25 partis d'opposition ont fait savoir qu'ils se constitueront prisonniers ce vendredi si les quatre prévenus ne sont pas remis en liberté. Au Cameroun, des partisans du président Paul Biya multiplient les appels pour qu'il organise des élections anticipées afin de se représenter. Mais pour les opposants, 34 ans au pouvoir, ça suffit. Ce jeudi, chacun a essayé de montrer sa force dans la rue de Yaoundé. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, récit Lionel Gaïma.
D'après la chanson, Paul Biya, notre leader, notre père, a 84 ans. Il est encore solide pour être président aussi longtemps qu'il voudra. Des messages et événements pareils se multiplient à travers le pays. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, célèbre son 31e anniversaire. Charlemagne Messanga Nyamdig, membre du comité central du RDPC, souhaite que Biya modifie la constitution et organise des élections anticipées.
C'est quand les Camerounais aiment Paul Biya, c'est qu'ils l'ont fait, ils l'aiment. Ils ont cru en cet homme-là, ils continuent de croire en cet homme-là et ils veulent continuer avec cet homme-là pour relever les défis parce qu'il a montré de par son expérience, de par son courage, de par sa détermination, qu'il est le meilleur à pouvoir nous protéger face aux incertitudes du présent et de demain.
À travers Yaoundé, l'opposition de son côté a essayé de donner la voix dans des contre-manifs. Pour la députée Patricia Ndam Njoya, le pays devrait se concentrer sur des questions plus urgentes, comme le développement, la réforme du code électoral et en finir avec Boko Haram qui attaque et tue dans l'extrême nord du pays.
C'est très curieux. On se demande pourquoi est-ce que, avec l'insécurité ambiante, les problèmes que les Camerounais connaissent aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment en plein mandat? Non, vous ne trouvez pas qu'il y a un jeu? Nous, on pense qu'il y a mieux à faire au Cameroun aujourd'hui et on ne comprend pas cette précipitation, sinon qu'il y a matière à penser que le gouvernement est inquiet aujourd'hui.
L'élection présidentielle est prévue en 2018. L'opposition camerounaise était chaque fois allée en rang, dispersée au précédent scrutin. Madame Joya estime qu'il est temps que les opposants fassent bloc derrière un candidat unique. Cette idée ne semble guère inquiéter Benoît Ndong, soumet, membre du comité central du parti au pouvoir.
Ce que l'on doit observer chez un dirigeant politique, c'est ce qu'il fait avec les moyens qu'il a pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Lorsqu'on appréhende la chose de cette manière-là, il faut être aveugle pour ne pas voir ce que fait notre président.
M. Biya a fait modifier la constitution en 2008 pour éliminer le verrou de la limitation des mandats. À 84 ans, il est le plus vieux président africain après Robert Mugabe, qui vient de fêter ses 92 ans. Pour le moment, Paul Biya ne montre aucun signe de vouloir prendre sa retraite.
Le Malien Alassane Ould Mohamed a plaidé coupable hier à New York du meurtre d'un diplomate américain à l'extérieur d'un restaurant au Niger. C'était en décembre 2000, la précision Michel Joseph.
Sa victime, l'Américain William Baltimore, âgé de 51 ans, se trouvait en Afrique de l'Ouest pour rétablir le bureau de l'attaché militaire du département américain de la Défense. Le jour même où il devait rentrer chez lui en Caroline du Nord, deux hommes armés ont ouvert le feu sur lui après lui avoir demandé les clés de sa voiture. Touché en pleine poitrine à l'extérieur d'un restaurant de Niamey qu'il venait de quitter au petit matin du 23 décembre 2000, il a rendu l'âme. Les meurtriers ont aussi tiré sur un de ses collègues, le sergent Christopher McNeely, qui a survécu. L'un des assaillants, Alassane Ould Mohamed, âgé de 46 ans, a plaidé coupable de complot de meurtre devant le juge William Kuntz au tribunal fédéral de Brooklyn. Il risque 25 ans de prison et sera fixé sur son sort le 26 avril. Recherché et arrêté par le Niger, Mohamed, qui était également accusé du meurtre de 4 Saoudiens à la frontière entre le Niger et le Mali en 2009, s'était évadé en juin 2013 après une opération attribuée à des extrémistes liés à Al-Qaïda. Il avait à nouveau été arrêté par des forces françaises dans le nord du Mali en novembre 2013 et extradé par le Mali vers les États-Unis en mars 2014.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Bruxelles, secoué par les attentats qui ont fait 31 morts et 300 blessés mardi, venu pour offrir le soutien de Washington à la Belgique dans la lutte contre le terrorisme. Il doit notamment rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le premier ministre belge Charles Michel et le roi des Belges. Les attaques de Bruxelles soulignent l'urgence de combattre l'organisation État islamique qui a revendiqué ces attentats et d'autres organisations extrémistes avaient souligné M. Kerry jeudi à Moscou. Le suspect arrêté hier pour un projet d'attentat en France avait été condamné déjà en son absence à Bruxelles en juillet 2015. L'interpellation de cet individu au nom de Redaka a conduit jeudi soir le policier à un appartement de la région parisienne où une petite quantité d'explosifs a été découverte. Son interpellation a été qualifiée d'importante par le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve car elle a selon lui permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Parlement haïtien a validé dans la nuit de jeudi à vendredi la composition du nouveau gouvernement à une écrasante majorité permettant au pays d'envisager la reprise du processus électoral suspendu en janvier. La politique générale du nouveau Premier ministre, Enex Jean-Charles, a été validée à l'unanimité par les sénateurs jeudi après-midi. Après plusieurs heures de débat, 78 députés ont finalement, dans la nuit, voté en faveur du gouvernement. Un seul parlementaire a voté contre, 2 députés se sont abstenus. Et pour finir, l'ONU, au secours de la présidente brésilienne, son agence ONU Femmes a dénoncé la violence politique d'ordre C6 contre Mme Dilma Rousseff, menacée d'une procédure de destitution. La dirigeante de gauche vit ses moments les plus difficiles depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Elle est soupçonnée de maquillage de comptes publics. À cette bataille pour l'impeachment menée par l'opposition de droite, s'ajoutent des révélations depuis des mois autour du méga scandale de corruption Petrobras qui a poussé des millions de Brésiliens à descendre dans la rue pour demander le départ de la présidente Dilma Rousseff. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et il vous sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, bon après-midi sur le continent et à bientôt. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.